À la une, plusieurs rendez-vous politiques chez les indépendantistes ce week-end. Et le Palika qui tenait notamment son assemblée générale à Wailou. Il souhaite que le dialogue reprenne et que les premières discussions soient menées en Calédonie. Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, dénonce les opérations d'ingérence de l'Azerbaïdjan dans les Outre-mer. Après le congrès tenu à Nouméa par des mouvements indépendantistes ultramarins et corses, soutenu par le groupe d'initiative de Bakou. Le vide-grenier du pont des Français a attiré une large foule ce matin, l'occasion de préparer notamment la rentrée scolaire à petit prix. À l'international, la libération de 4 nouvelles otages israéliennes. Âgées de 19 à 20 ans, elles étaient détenues par le Hamas depuis 477 jours. Dans le Pacifique, plusieurs incendies ravageurs sévissent encore dans l'ouest de l'Australie, avec des habitations détruites et des milliers d'hectares de végétation partis en fumée. Le sport, séjour de finale à l'Open d'Australie en tennis. Un duel à venir entre Yannick Sinner et Alexander Zverev. Chez les dames, l'américaine Madison Keys a gagné la couronne à Melbourne hier. Et puis du handball avec la calédonienne Suzanne Wajoka qui poursuit son parcours dans le haut niveau. Bientôt un changement de club pour des objectifs toujours plus hauts. Bonjour et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. L'actualité politique est à la une. Le Palika tenait son assemblée générale à Wailou ce samedi. Un rendez-vous avec plusieurs points à l'ordre du jour. Et tout d'abord, la suite des discussions quant à l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Les représentants du Palika qui expliquent avoir eu l'occasion d'échanger avec Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, quant à une reprise du dialogue. On écoute Jean-Pierre Jaywe, l'un des porte-parole du Palika.
Nous avons eu dernièrement une visioconférence avec le ministre Manuel Valls à sa demande. Nous avons évoqué avec lui la question de la reprise des discussions. On lui a dit que nous étions favorables. Nous avons demandé au ministre que les premières discussions puissent se tenir ici en Nouvelle-Calédonie. Le ministre nous a fait savoir que le premier ministre voulait que les délégations calédoniennes puissent venir sur Paris pour entamer les discussions. C'est ce qu'il nous a dit. Certainement qu'une invitation sera faite d'ici début février. Et nous avons pu évoquer avec lui les sujets qui peuvent être évoqués et la méthode. On a dit au ministre que c'est important pour nous. Il y a une chose que l'on retient également de l'entretien que nous avons eu avec le ministre. Il a dit qu'à un moment donné, s'il le faut, et là c'est la première fois qu'on entend ces mots de la bouche d'un ministre, il faudra qu'à un moment donné, l'État puisse mettre une proposition sur la table. Et ça, ça nous paraît important. C'est bien aussi que l'État puisse à un moment donné faire une proposition qui sera ensuite à discuter entre nous.
Autre sujet abordé lors de cette Assemblée Générale du Palika, l'avenir du PS2R. Le Palika dit attendre de connaître la stratégie du 18e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie vis-à-vis de ce plan de reconstruction pour le territoire après la crise insurrectionnelle de 2024.
La préoccupation qu'on avait, c'était de dire comment ce plan PS2R va être poursuivi par l'actuel gouvernement. Donc la question s'est posée, mais on attend de voir. C'est que dans l'actuel gouvernement, il y a un certain nombre de membres qui ont porté le PSDR dans le cadre du 17e gouvernement. Donc on attend de voir la déclaration de politique générale du président du 18e gouvernement pour voir s'il s'inscrit dans la continuité du plan PSDR.
Enfin, en ce qui concerne le front indépendantiste, le Palika reste sur sa position et ne se reconnaît pas dans les décisions prises par l'instance qui reste appelée le FLNKS depuis le congrès de Pagou. On retrouve Jean-Pierre Jaywe.
Tout ce qui nous concerne, donc on a dit non, on n'est pas concerné par ce congrès du FLNKS. Les décisions qui prendront, ce seront leurs décisions. S'il faut se voir, eh bien, nous avons toujours la porte ouverte parce que nous l'avons fait à la demande du président du Calédonien qui est de voir. Le bureau politique du Palika, on reste ouvert. Et en tout cas, nous, on ne fera pas la démarche d'aller vers eux. On a décidé de nous mettre en retrait.
Voilà pour ce point avec Jean-Pierre Jaywe, le porte-parole du Palika. Vous aviez eu l'occasion d'entendre également sur notre antenne dans nos précédentes éditions le président de l'UPM, Victor Tutugoro, à l'issue du comité central de l'Union progressiste en Mélanésie qui se déroulait hier à Dimbéa. Il a notamment déclaré que l'UPM accepterait d'aller à Paris pour une reprise des discussions pour défendre le projet, je cite, d'une souveraineté partagée. Victor Tutugoro qui a réaffirmé que les conditions n'étaient pas réunies pour envisager un retour au sein du FLNKS et que l'UPM veut prendre le temps et mettre en place une société, je cite encore, qui n'exclut pas. des positions diamétralement opposées à celles exprimées donc hier en ouverture du 44e congrès du FLNKS à Saint-Louis. Une lettre de Christian Théin, leader de la CCAT, a été lue en guise de discours d'ouverture. Celui qui a été désigné président du FLNKS lors du congrès de Pagou a réaffirmé que l'accès à la pleine souveraineté devra se faire dans les plus brefs délais, avant l'élection présidentielle de 2027 et avec le FLNKS comme unique interlocuteur face à l'État dans des réunions au format bilatéral. Christian Théin qui appelle également à se projeter sur les provinciales de 2025 où les formations toujours présentes dans le FLNKS devront réaliser les meilleurs scores possibles pour obtenir la plus large majorité dans les institutions locales et ne plus avoir à négocier sur les textes présentés. Le congrès du FLNKS doit s'achever aujourd'hui donc à Saint-Louis au Mont-d'Or. En marge du congrès du FLNKS, je rappelle que des représentants de mouvements indépendantistes de plusieurs territoires ultramarins et de Corse se sont réunis jeudi et vendredi à Nouméa pour le congrès constitutif du Front international de décolonisation. Un congrès relayé sur ses réseaux sociaux par le Baku Initiative Group, une organisation promue par l'État azerbaïdjanais. Dans une interview accordée à West France, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, dénonce, je cite, les opérations d'ingérence et de déstabilisation de l'Azerbaïdjan dans les territoires ultramarins, accusant Bakou de s'attaquer, je cite encore, à l'intégrité de la France sans le moindre scrupule. Fin de citation. Au chapitre des faits divers, un accident de la route survenu ce matin, une collision qui s'est produite vers 8h50 dans le secteur des Fraisiers de Païta. Un véhicule roulant sur la voie express dans le sens Nouméa-Tontouta a percuté par l'arrière la voiture qui le précédait. Il n'y a pas eu de blessés. Le couple à bord de la voiture percutée a été envoyé par mesure de précaution au Medipôle. La circulation a dû se faire sur une seule voie pendant environ 45 minutes. Et puis, un autre accident survenu à Touau ce matin vers 9h. Une voiture a fait une sortie de route au niveau de la tribu de Poix. La conductrice, seule à bord du véhicule, a été évacuée par précaution vers l'hôpital de Koné.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Dans le reste de l'actualité, le vide-grenier du Pont des Français, c'était ce dimanche matin. Il a particulièrement attiré les familles qui se préparent pour la rentrée, Charlotte Coulson.
Oui, la fin des vacances arrive dans moins de 3 semaines et les parents commencent déjà les courses de la rentrée. Les enfants grandissent, il faut refaire leur garde-robe, acheter de nouvelles fournitures, un nouveau cartable, des dépenses qui peuvent parfois peser lourd sur le portefeuille des ménages, particulièrement cette année. Alors certains Calédoniens choisissent une alternative, les vides-greniers. C'était le cas au parking du Drive-In ce matin. Une sortie en famille pour faire quelques achats à bas prix, tout en profitant de la balade.
Ben, on est venu comme on arrivait des îles, pour chercher des lèches pour les enfants pour la rentrée. À chaque année, on venait ici et puis on attend aussi le vide-grenier sur Païta, en ville, c'est moins cher.
Ah ben là, on est venu avec ma copine, on est venu se promener un dimanche pour voir un peu s'il y a des choses à prendre et passer un bon moment ensemble. Ben là, on a pris des chaussures pour sa sœur avec des tricots, avec un pull. Et aussi, on a une plante là, c'est un pied de lentille. Okay. Ça a été offert. Je suis vraiment content et ça fait plaisir avec ce temps là. On est bénis, merci.
Des achats à petit prix pour les clients et l'occasion aussi pour les vendeurs de vider leurs placards tout en remplissant leur porte-monnaie. Patricia est maintenant une habituée de la foire aux affaires du Pont des Français. Elle a commencé à venir à la fin de l'année dernière.
Les temps sont durs. Hein. Depuis le mois de mai, c'est dur. Hein. Du coup, on prend tout ce qu'il y a à la maison pour vendre. Ça nous fait des petites pièces et en même temps pour la rentrée là, des enfants. Là. Ça aide beaucoup quand même. Hein.
C'est quoi que vous vendez du coup des vêtements?
Oui, voilà, des vêtements, il y a des petits bijoux là, tout ce qui est bricole pour les enfants, de la vaisselle. Il y en a déjà qui ont commencé à prendre des affaires d'école pour les enfants, tout ce qui est vêtements. Hein.
Vous allez revenir pour les autres dimanches?
Ah oui. Tant qu'on a des affaires à vendre, on va être là. Hein. On en a besoin en ce moment. Hein.
Et pour retrouver Patricia et les autres exposants, rendez-vous tous les dimanches sur le parking du Drive-In au Pont des Français de 6h à midi. Et pour les exposants, les réservations se font au 24 39 01, le 24 39 01.
Une journée dédiée aux tortues marines à Bouraille. L'association Les Artisans a organisé la première édition de la fête de la tortue. Les visiteurs sont venus de Nouméa ou de Brousse pour en apprendre plus sur ces reptiles, Charlotte.
Oui, chaque début d'année, année, les tortues font parler d'elles, particulièrement à la Roche-Percée et à la baie des Tortues, car les œufs qu'elles ont pondus quelques semaines plus tôt commencent à éclore, un phénomène qui attire les visiteurs, et c'est justement l'occasion de faire de la prévention. C'est le but de la fête de la tortue organisée aujourd'hui au snack Marco & Co à la Roche-Percée. Sur place, des stands d'information, mais aussi un marché d'artisans et de producteurs. Fallon Leclerc est présidente de l'association Les Artisans qui organise l'événement. Elle était plutôt satisfaite de l'engouement des visiteurs ce matin.
Bah écoutez, c'est plutôt sympa, il y a du monde, les exposants ils sont au rendez-vous aussi, on est quand même une quinzaine d'exposants. L'association Bord à Tortue a pu se libérer également, donc ils seront là pour faire de la sensibilisation et de la formation sur la protection des tortues. Les gens sont là, sont au rendez-vous, ça fait plaisir. Alors on a des gens de Nouméa, des gens de Bourail, on a aussi des gens de France qui étaient du coup en voyage sur le territoire et qui sont venus. Ça fait vivre un petit peu les artisans, les pêcheurs et les fermiers de Bourail, tout en mettant en avant du coup la sensibilisation pour la protection de la tortue. Ça crée aussi un événement festif en fait pour les gens, pour qu'ils puissent déconnecter un petit peu après tout ce qu'on a vécu cette année.
Et la fête de la tortue est finie depuis midi, mais elle reviendra sans doute l'année prochaine. En attendant, l'éclosion des œufs continue sur la plage, au moins jusqu'au mois de mars.
Il est midi passé de 12 minutes. On va tourner une page de publicité dans ce journal avant de voir l'actualité nationale et dans le monde. Un adolescent tué à coups de couteau à Paris pour son téléphone portable. On en parle dans un instant.
Savez-vous que la lèpre touche encore une personne toutes les deux minutes ? Aujourd'hui, ce fléau mutile, handicap et exclut 3 millions de lépreux dans le monde. Engagé contre la maladie, l'Ordre de Malte dépiste, soigne et fait avancer la recherche.
À l'occasion de la Journée mondiale des lépreux, l'Ordre de Malte organise une quête ce samedi 25 et dimanche 26 janvier. Soyez généreux.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite de votre journal. On retrouve Michael Juleski.
Un drame à Paris. Un adolescent de 14 ans a été mortellement poignardé pour son téléphone portable. Deux mineurs ont été interpellés. Ils sont en garde à vue, soupçonnés d'avoir porté le coup de couteau fatal à la victime. Le jeune homme refusait de leur remettre son téléphone portable. L'adolescent a donc succombé à ses blessures à l'hôpital. Les deux suspects sont déjà connus de la justice. Une cellule de crise sera ouverte dès lundi au sein de l'établissement dans lequel était scolarisé le jeune homme. Écoutez le témoignage du proviseur de son lycée.
J'ai été attristé et assez remué du décès de ce jeune homme. Je l'identifiais bien, je suis à la grille, donc je les visualise bien. Je sais aussi, par le suivi qu'on fait régulièrement, voilà, s'il y a des difficultés, pas de difficultés. J'ai échangé avec son professeur principal, voilà, donc c'est pas du tout un élève qui avait des difficultés, quelles qu'elles soient, qu'elles soient relationnelles ou académiques. Et voilà, Elias était un élève agréable et apprécié.
Le ministre de la Justice, Bruno Retailleau, s'est dit horrifié par cette violence gratuite. Résultat, selon lui, je cite encore, d'un effondrement de l'autorité. Il évoque également la mobilisation de tous pour tourner le dos à une culture de l'excuse qui a plongé une partie de notre jeunesse dans un profond sentiment d'impunité. Fin de citation. Deux blessés légers dans une attaque au couteau, cette fois-ci dans la région du Vaucluse. Le parquet antiterroriste a été saisi. Un homme, a priori un déséquilibré, radicalisé, aurait crié dans un supermarché à la Wakbar avant de s'en prendre à un client avec un couteau de cuisine. L'assaillant a ensuite été maîtrisé par un agent de sécurité. Le point avec Nina Pavant pour Europe 1.
Le suspect d'une trentaine d'années est entré dans un supermarché armé d'un couteau de cuisine avec, il frappa l'oreille un client en criant à la Wakbar avant d'être maîtrisé par l'agent de sécurité. Le client et le vigile sont légèrement blessés, mais leurs jours ne sont pas en danger. L'assaillant, interpellé par la gendarmerie et connu des services de police, fiché et suivi pour radicalisation ainsi que pour des troubles psychiatriques. Une enquête pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste a été ouverte par le parquet national antiterroriste qui s'est saisi de l'affaire.
Les précisions de Nina Pavant pour Europe 1. À l'international, en Israël, quatre nouvelles otages ont été libérées par le Hamas dans le cadre de l'accord de trêve conclu avec l'État hébreu. Les quatre femmes ont été transférées à l'hôpital. Elles sont dans un état stable. Elles sont âgées de 19 à 20 ans et ont donc passé 477 jours aux mains du groupe terroriste. Elles avaient été capturées lors des attaques du 7 octobre 2023. Caroline Baudry d'Europe 1.
Oui, qui se trouvait à Réim, dans le sud du pays, dans une installation de l'armée israélienne, lorsqu'au même moment, côté Gaza, les quatre quatre femmes, jeunes femmes pardon, apparaissent dans une mise en scène glaçante. En tenue militaire, elles montent sur une estrade tout sourire et lèvent les bras pour saluer la foule où des confettis sont jetés en musique. Autour d'elles, les hommes du Hamas sont encagoulés, bandeau vert autour de la tête et fusil à la main. Elles embarquent ensuite dans un véhicule de la Croix-Rouge internationale avant de rejoindre le sol israélien et s'effondrer dans les bras de leurs proches. L'une d'elles a adressé un message vidéo en faisant un cœur avec les doigts.
Je vous aime tous les citoyens de l'État d'Israël qui ont soutenu nos familles et les ont entourés, ainsi que tous les soldats de Tsahal qui ont tout fait pour nous. Merci beaucoup, je vous aime tous.
Un hélicoptère les a déposés à l'hôpital. Leur état de santé, vous le disiez, est stable selon les mots de l'armée israélienne. Ces quatre jeunes femmes avaient été enlevées alors qu'elles guettaient à la frontière dans le cadre de leur service militaire. Sur des vidéos parvenues de Gaza au tout début de leur détention, on les aperçoit terrorisées, assises et menottées en pyjama dans un appartement. Toutes sont alors blessées, le visage ou le pantalon ensanglanté.
Caroline Baudry pour Europe 1. Et en échange, 200 détenus palestiniens ont été libérés par Israël. Il reste encore 26 otages israéliens libérables à Gaza dans le cadre du cessez-le-feu. Inquiétude en Afrique centrale. Kinshasa a annoncé rappeler ses diplomates à Kigali après l'intensification des combats dans l'est de la République démocratique du Congo entre l'armée congolaise et le M23, groupe armé anti-gouvernemental soutenu par le Rwanda. Après l'échec d'une médiation, le M23 et 3000 à 4000 soldats rwandais, selon l'ONU, ont rapidement gagné du terrain ces dernières semaines. Ils encerclent désormais presque complètement la ville de Goma, qui compte 1 million d'habitants et au moins autant de déplacés. Le secrétaire général des Nations Unies s'est dit alarmé par ce regain de violence qui pourrait aggraver le risque d'une guerre régionale. Le président français Emmanuel Macron a appelé à la fin immédiate de l'offensive du M23 ainsi qu'au retrait de ces dernières du territoire congolais. La Corée du Nord a testé des missiles de croisière stratégiques lancés depuis la mer, annoncé l'agence de presse d'État de Pyongyang, ajoutant que les missiles avaient atteint leur cible avec précision. Les moyens de dissuasion des forces armées de la République populaire démocratique de Corée sont perfectionnés de manière plus approfondie, a déclaré le leader nord-coréen Kim Jong-un.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 12h17.
L'actualité dans la région Pacifique. En Australie, plusieurs incendies de grande ampleur ont déjà détruit au moins 5 maisons et des dizaines de milliers d'hectares de végétation dans l'ouest de l'île continent. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Les services d'urgence d'Australie occidentale ont indiqué hier que d'entières communautés sont menacées par les incendies qui brûlent depuis vendredi au nord-est et au sud-est de Perth, la capitale de l'État. Les plus importants de ces feux ont déjà détruit au moins 5 habitations, des hangars, du matériel agricole et 55 000 hectares de forêts et pâturages. Ces incendies ont été contenus, mais non encore maîtrisés, a indiqué un responsable des services d'urgence qui a ajouté que 300 pompiers volontaires ont été déployés pour combattre les plus menaçants. Plus au nord de l'État, de violents incendies qui brûlent toujours ont déjà détruit des dizaines de milliers d'hectares de forêts et pâturages dans la région de Kimberley. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Midi passé de 19 minutes, une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir tout le sport.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Info Week-end avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et on commence avec du tennis et une surprise lors de la finale dames de l'Open d'Australie. L'américaine Madison Keys s'est imposée sur la numéro 1 mondiale, la Bélarusse Aryna Sabalenka. Lionel Sabot.
Oui, Madison Keys qui a 29 ans a remporté hier soir le tout premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière. Un bel exploit, il faut bien le reconnaître, face à la double tenante du titre et comme vous le disiez, numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka. Madison Keys s'est imposée en 3-7. Score final 6-3, 2-6, 7-5. Madison Keys parvient enfin à s'imposer sur un grand chelem, 8 ans après la seule finale qu'elle avait disputée dans un tournoi majeur, c'était à l'US Open. Écoutez Madison Keys.
I'm mostly just really proud of myself to get back.
Je suis surtout très fière de moi de revenir à cette position, d'être capable de jouer comme je l'ai fait.
On such a strong note. I'm just really proud of
je suis vraiment très fière de moi. Je n'ai pas toujours cru que je pourrais revenir à ce point, mais être capable de le faire et de gagner, cela signifie tellement pour moi.
Et cet Open d'Australie se terminera ce soir avec la finale. Messieurs, le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner, sera opposé à l'Allemand Alexander Zverev. Premier coup de raquette à partir de 19h30 sur la Rod Laver Arena de Melbourne.
Allez, du football avec la suite de la 19e journée du championnat de France de Ligue 1.
Les trois matchs étaient au menu ce matin. Après avoir brillé en Ligue des Champions cette semaine, le Paris Saint-Germain a calé ce matin en championnat. Les Parisiens recevaient Reims au Parc des Princes. Les deux équipes se sont séparées sur un nul, un but partout. Paris coince. En revanche, Monaco a retrouvé la dynamique de la gagne en faisant sombrer les Bretons de Rennes. Les Monégasques se sont imposés sur le score de 3-2. Ils reprennent donc la troisième place du classement en profitant au passage du faux pas de Lille sur le terrain de Strasbourg. Les Lillois se sont inclinés 2-1 après avoir eu l'avantage jusqu'à la 70e minute de jeu. Cette 19e journée de Ligue 1 s'achèvera demain matin pour nous. À suivre Le Havre-Brest, Nantes-Lyon, Lens-Angers, Toulouse-Montpellier et Nice-Marseille. Rappelons qu'en ouverture de cette journée, hier, Auxerre et Saint-Etienne avaient fait match nul, un but partout.
Allez, on passe au rugby avec le début de la 15e journée du top 14.
Et la sensation du jour est venue de Bordeaux qui s'est incliné après 8 victoires consécutives en championnat. L'Union Bordeaux-Bègles qui s'est incliné 22-20 devant Lyon. Les Lyonnais qui cette saison se seront imposés à 2 reprises sur les Bordelais. Bordeaux qui a tout de même décroché le bonus défensif conserve sa place de leader au classement général. Oui, mais voilà, l'UBB désormais à égalité de points avec Toulouse. Les Toulousains qui sont sortis vainqueurs de leur duel face à Montpellier, 27-17. Un coup d'œil aux autres résultats avec la victoire de Castres sur le terrain du Racing 92, 27-20. Le promu Vannes, dernier au classement, a signé un beau succès face au Stade français, l'avant-dernier du championnat de France, 33-28. La section paloise a battu Clermont 20-14. Enfin, Perpignan s'est imposé de peu sur Bayonne, 16-11. Demain, dernier match de cette journée. Toulon affrontera le Stade Rochelet.
Et en rugby, à cette fortune diverse pour les équipes de France engagées dans la troisième étape du circuit mondial à Perth.
Alors, du côté des messieurs, les tricolores avaient fait un sans faute en match de groupe pour accéder au quart de finale. Oui, mais voilà, ils se sont inclinés contre le pays hôte du tournoi, l'Australie. Score final 24-12. À l'inverse, ça s'est bien passé pour les filles qui sont aux portes de la finale. Après leur succès sur les Américaines 19-7 en quart de finale, elles feront face aujourd'hui aux Néo-Zélandaises dans le dernier carré.
Sur les terrains de handball, la France termine invaincue la phase de groupe des championnats du monde.
Les Français déjà qualifiés pour les quarts de finale avant même ce dernier match du tour principal se sont tranquillement imposés 32-25 sur la Macédoine du Nord. Avec 5 victoires en autant de matchs, les Bleus terminent largement en tête de leur groupe. Les Français qui devront attendre demain pour connaître leur adversaire en quart de finale de la compétition.
On passe au sport d'hiver avec ces nouveaux podiums pour les tricolores en Coupe du Monde de biathlon.
Et en individuel chez les féminines sur l'épreuve de la poursuite Anterselva en Italie, Lou Jean-Monod a décroché la victoire devant Julia Simon pour un doublé tricolore. On retrouve encore deux Françaises au pied du podium, Jeanne Richard 4e et Océane Michelon 5e. Sur le relais messieurs, les Bleus ont aussi terminé devant les redoutables Norvégiens. Fabien Claude, Quentin Fillon-Maillet et Éric Perrault et Émilien Jacquin ont signé le 4e succès d'affilée du relais français en Coupe du Monde.
On termine avec les sports automobiles et Sébastien Ogier qui domine toujours le classement du rallye de Monte Carlo.
Effectivement, le Français, cette fois champion du monde, est toujours leader au volant de sa Toyota avec 20 secondes d'avance sur son coéquipier, le gallois Elfyn Evans. Un autre pilote français, Adrien Formeau sur Hyundai, est en troisième position. Il reste 3 spéciales à disputer, dont la célèbre Power Stage. Ce sera ce soir Sébastien Ogier qui se dirige lentement mais sûrement vers une nouvelle victoire sur ce Monte Carlo.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. À Dimbéa, c'est le 98.
Le sport côté calédonien. La handballeuse Suzanne Wajoka poursuit son parcours dans le haut niveau. Avec déjà du changement à venir, à la fin de la saison, elle sera amenée à changer de club pour se fixer encore de nouveaux objectifs. Si contractuellement, elle ne peut pas encore dévoiler le nom de sa prochaine équipe, une chose est sûre, ce sera un nouveau pas de franchi dans sa carrière prometteuse. Elle nous a fait part de sa réaction, Suzanne Wajoka.
Cette année sera ma dernière saison à Besançon puisque j'ai signé dans un nouveau club, un bon club avec de grands objectifs. Et c'est tout ce que je peux dire, de grandes ambitions, de beaux projets, de bons objectifs. Un club, je pense, qui pourrait encore plus me faire progresser et franchement découvrir de nouveaux horizons. Ce club pourrait beaucoup m'apporter. Mes objectifs sur les prochaines années, je dirais être parmi les meilleurs ailières, que ce soit du championnat et autres, et aussi être en équipe de France de handball.
Suzanne Wajoka qui faisait déjà partie à des sélections jeunes en équipe de France et qui a participé en fin d'année dernière au regroupement d'octobre avec les seniors en bleu, signe qu'on pourrait bientôt la retrouver dans des compétitions de prestige.
Enfin, je me disais, mais ces filles, je les voyais à la télé, j'apprenais d'elles pour jouer au handball, techniquement. Et là, maintenant, je me retrouve à côté d'elles, je parle avec elles, je les côtoie en dehors et sur le terrain. J'ai énormément de chance, donc franchement, j'étais plutôt sous le choc. Et j'ai pris, mais surtout, énormément de plaisir à être à côté d'elles et d'en apprendre plus davantage de leur expérience sur le terrain. Je n'ai jamais fait de grande compétition avec l'équipe de France, mais lorsque je les ai vues travailler ensemble, que ce soit en dehors, lorsqu'on avait vidéo collectif, je me suis dit, je trouvais ça cool.
Un petit message pour les handballeuses par rapport à ton parcours. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire?
Je voudrais énormément les encourager à continuer à poursuivre leurs rêves. On n'a rien sans travail. Tout est possible, rien n'est impossible. Il faut y croire jusqu'au bout.
Suzanne Wajoka, la handballeuse calédonienne, donc dans le haut niveau, aux portes de l'équipe de France senior, qui nous faisait part de son témoignage avant de terminer la saison et de se préparer à changer de club la saison prochaine.